dois vous dire en préambule, et je n'y reviendrai pas, c'est que j'ai eu un terrible accident de voiture que je ne conduisais pas et que ça m'a démoli. Donc je tiens à peine debout, mais je peux encore parler. Donc c'est à peu près la seule faculté qui me soit encore disponible. Voilà. Donc si j'ai des problèmes de retour, de manque de mémoire, j'espère que vous m'excuserez parce que ça m'a démoli un peu le cerveau, quoi. Voilà. Mais je fais quand même beaucoup de conférences. C'est pas pour me faire mousser, pour me faire valoir. C'est l'expression d'une passion, j'oserais dire, de celle de la culture. Alors que je suis toujours en train de critiquer la culture. Parce que la culture, c'est une arme à double tranchant. C'est à la fois une manière de faire valoir le progrès technique, mais c'est aussi un regard sur la nature. Et donc le sujet de mon exposé, c'est entre nature et culture, la greffe. Or, quand on greffe, la greffe, c'est une barbarie, c'est une violence. Couper un arbre et vous lui imposez quoi ? Votre culture. Donc on voit bien l'espèce de conflit permanent entre nature et culture. La nature, elle est sauvage. On en parle toujours comme quelque chose d'extérieur à soi. Or, nous sommes nature. Et nous sommes justement nature et culture. Chez l'homme, on ne peut pas les dissocier. Avant la culture, c'est quoi ? C'est une bête. On ne sait pas ce que c'est. C'est un singe, je ne sais pas. Et dès l'instant qu'il est homme, dès la préhistoire, dès les balbutiements de notre humanité, il y a la culture. Si vous voulez essayer de tailler une pointe de flèche, vous verrez ce que c'est. Quelle culture il fallait pour tailler une pointe de flèche ? Alors, je ne parle pas des peintures rupestres de tout l'Ouest, la culture. Et l'homme sans culture, on ne sait pas ce que c'est. Ce doit être une bête. Or, la culture, telle qu'on l'a cultivée elle-même, est devenue une technologie incroyable. Si vous voulez aller sur Mars, c'est de la culture. On va y arriver, probablement. On est déjà allé sur la Lune. Tout ça, c'est une technologie culturelle. Alors, moi, je suis très inquiet en face de ça, de ce respect qu'on a de la culture, de la technoculture, qui aboutit au rendement, qui aboutit aux monocultures, qui aboutit à une certaine apiculture, des tas de choses qui s'expriment aux dépens de l'origine qui la porte, cette culture. C'est la nature. C'est la nature qui porte la culture, et l'inverse, ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, on est dans ce conflit, ce dilemme. C'est très, très complexe, parce qu'on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Pendant que je vous parle, je suis cultivé. J'ai une culture, pas plus que vous d'ailleurs, mais c'est ça qui me permet de m'exprimer, une langue, etc. Tout ça, c'est de la culture. Mais j'ai une sorte de nostalgie permanente d'un état antérieur, parce que je suis les deux, je suis aussi nature. Et cette nature, si je la bafoue, si je la méprise, à force de technique et d'altération de la nourriture, qui elle-même est le fruit d'une technologie, vous allez acheter des tas de choses, tout le monde, moi-même, au supermarché ou ailleurs, et on n'a pas le goût originel. On a la production industrielle de la nourriture. Donc on est toujours victime, plus ou moins, de ce rapport entre nature et culture. Eh bien, quand on greffe, on prend la responsabilité d'imposer la culture à la nature. Vous pouvez prendre dans tous les sens du terme, la greffe, c'est toujours ça. Qu'il s'agisse d'une greffe du cœur, une greffe des orteils, de n'importe quoi, la greffe, c'est ça. C'est une violence faite à la nature pour essayer, soi-disant, de l'améliorer, ce qui n'est pas sûr du tout. Est-ce qu'une pêche, moi j'avoue, bon, je suis assez cultivé pour préférer une pêche à une prunelle. Tout à l'heure, j'ai goûté une prunelle, elle était âpre, elle n'était pas mûre. C'est très, très, très difficile à avaler, les nourritures de la préhistoire, parce qu'elle, elle est préhistorique, la prunelle. Tandis que la pêche, c'est un fruit cultivé. Or, je peux greffer la pêche sur la prunelle. Et je vais avoir des pêches comme ça, sur une prunelle qui fait des fruits comme ça. Donc, c'est le côté miraculeux de la greffe. Et donc, c'est une violence qui paye. Mais elle paye tellement qu'en même temps, elle dégrade. Elle dégrade le fruit originel. C'est-à-dire que la prunelle, elle n'a aucun parasite, elle se défend très bien, elle a des épines comme ça, elle se répand très facilement, elle se ressème, etc. Mais la pêche, il y a la cloque du péché, il y a quantité de maladies. On a fragilisé en somme une espèce pour arriver à satisfaire notre goût du sucre et de la culture. Du sucre tout particulièrement, parce que l'un des indices, si vous voulez, de cette dégradation de notre humanité, de notre système, c'est le sucre. Or, le sucre, il est totalement industriel, le sucre blanc. Alors que nous, on pouvait l'apprécier dans le miel ou dans le sucre des fruits. Mais tout ça, c'est un sucre naturel. Mais ce que vous mangez tous les jours, que vous mettez dans votre café ou ailleurs, pour la plupart, hein, peut-être qu'il y a des exceptions parmi vous, c'est une industrie. Donc c'est l'annexion d'un certain désir de saveur au profit d'une rentabilité. Parce que ceux qui fabriquent le sucre, évidemment, ils sont très riches. C'est des très grosses entreprises. Mais en même temps, ils vous aliènent totalement, parce qu'on devient tous sucrés et on a tous besoin du sucre. Or, le sucre, il n'est pas très bon pour votre organisme, en particulier pour la digestion et l'assimilation. Et il débouche sur le diabète, et le diabète sur l'embonpoint, etc. Enfin bref, vous voyez toutes les séquelles de notre époque qui sont liées à la consommation du sucre. Voilà. Alors moi, j'aurais tendance à aller chercher le sucre ou bien chez les abeilles, dans le miel ou dans les fruits. Et je me défie, parce que je suis très fragile, comme beaucoup de gens, mais en tout particulièrement, surtout à mon âge, donc il faut que je me ménage. Donc, je me nourris surtout des plantes sauvages, et puis des fruits, et voilà. Et c'est ça qui me maintient à peu près en état. À peu près, parce que c'est pas très brillant. Voilà, donc après ce préambule un peu long, on va passer les images, si vous voulez bien. Voilà. Alors, je vais vous parler d'environnement. Voilà un bel exemple d'environnement. C'est celui de l'araignée, de l'épère diadème. Elle compte avec ce qu'elle ne peut pas changer, et elle tisse des fils, et elle crée son réseau, son piège en somme, mais c'est beaucoup plus qu'un piège, parce que c'est un piège très savant. Elle le fait trembler, elle accroche les mouches, etc., tous les insectes. Mais c'est aussi le foyer de son propre environnement. On le voit d'ailleurs au centre, c'est bien un foyer avec tout le rayonnement. C'est une sorte de schéma parfait de ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire s'entourer d'un certain nombre de réseaux qui vous permettent de ramener l'énergie au centre. C'est tellement bien l'énergie au centre que c'est même sa couche nuptiale, c'est aussi là qu'elle se marie, etc., qu'elle capte la femelle, etc. Voilà. Voilà un exemple d'environnement. Alors voilà un autre exemple de raccourci avec le foyer, la convergence tout à fait focale de l'intérêt, c'est le nid. Et le nid fait avec quoi ? Ben avec de la terre, pour la pie en tout cas, c'est un nid de pie. Alors elle va dans les champs autour de ma maison, très argileux, et elle se fait une poterie. Donc il n'y a pas que les hommes d'après-histoire qui ont inventé la poterie, vous voyez déjà, les oiseaux le faisaient, l'hirondelle, la pie. Et alors, elle est très savante, parce qu'elle fait un mortier, comme le mortier du béton, qui est armé, le béton, là aussi, l'argile est armée. Ce n'est pas seulement de la poterie, c'est une forme hybride entre la poterie et la vannerie. Car elle prend des végétaux, pas n'importe quoi, plutôt des racines, qu'elle malaxe avec la terre et elle se bat. C'est un vrai maçon. Donc elle se fait un nid. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de terre. Regardez, il y a le nid dans le nid. Dans le nid de terre, il y a un nid de paille. De paille, c'est encore de plus ou moins des racines. Elle choisit, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Elle prend justement des végétaux qui lui conviennent pour pouvoir faire rouler ses œufs facilement. Et le problème de l'argile, c'est que s'il pleut, ça va gonfler, ça va se déliter, tout va se casser. Alors au-dessus du nid, elle fait une superstructure avec des branchettes raides qui font couler plus ou moins la pluie, courir un peu en dehors du centre. En plus, dès qu'elle a pondu, elle couvre les œufs pour les protéger. Et elle les protège du chaud et du froid, mais surtout de la pluie, qui risque de démolir le nid. Et comment elle les protège ? Ben, c'est grâce à ces plumes qu'elle a sur le dos, qu'on appelle des tectrices. Le mot savant, technique, c'est des tectrices. Il y a les caudales, il y a les rémiges, et il y a les tectrices. Tectrice, ça vient de tectum, qui veut dire la tuile. Donc on voit bien que c'est fait pour évacuer l'eau. Voilà, bon, je pourrais vous parler longtemps du nid de pie. On peut passer ? En plus, les pies, c'est des, j'allais dire un gros mot, c'est des salopes, parce qu'elles vont bouffer les œufs incubés quand il y a le petit dedans. Quand elles sont en état de pondre, elles ont besoin de chair fraîche, et elles vont décimer les œufs des autres oiseaux en pleine incubation. Donc c'est vraiment un massacre. Voilà, si elle arrivait à ce nid-là, elle serait capable d'aller prendre les œufs. Donc elle parasite beaucoup d'autres oiseaux. Alors, voilà, je vous ai montré un nid. Rien qu'à le regarder, on sait qu'il est de pie. Et celui-là, pour un ornithologue, en le regardant, avec le choix des matériaux, la forme, le choix de l'arbre dans lequel il se trouve, tout ça est déterminant. Et finalement, ce qu'il y a le plus déterminant, c'est l'œuf. Sa taille, on voit bien que ce n'est pas un œuf d'autruche. Et puis, il y a un semis de taches qui paraît anarchique. Il n'est pas superposable. Et il est caractéristique. Il détermine aussi l'espèce. Donc ça, c'est un bruant qui niche toujours dans les genévriers. C'est un arbre de prédilection. De même qu'il y a le serin du cyprès qui va toujours nicher dans le cyprès. Donc il y a une affinité d'environnement, si vous voulez, entre la nature et l'oiseau. Et nous, on a perdu un peu, en tant qu'animal humain, cette relation à l'environnement. Voilà, je pourrais vous montrer toute une série de nids. Rien qu'en regardant le nid, on voit bien qu'il n'est pas du même oiseau. Et celui-là, il n'est jamais dans un arbre, il est toujours par terre. Et il est humide, dans un endroit humide. Et les œufs sont plus gros. Et vous voyez un semis différent, une couleur différente. C'est un pluvier. Donc celui-là, il aime la pluie, il aime les terrains humides. Voilà. Alors voilà encore un nid. Alors celui-là, il est anarchique apparemment. Il est fait de détritus. C'est le bidonville des nids, si vous voulez. Il est fait de récupération de vieux chiffons, des fois de plastique, de toutes sortes de saloperies. Parce que cet oiseau, qui est un rapace, c'est le milan noir, il va tuer les rats qu'il trouve sur les décharges publiques, en fait du temps où il y avait des décharges. Maintenant, ça n'est plus permis. Et donc, il trouve là les matériaux qui lui conviennent sur les décharges. Donc, il fait son nid avec les rejets de notre propre société. Alors voilà, un gros et le petit frère qui va passer à la casserole, hein, parce qu'il ne va pas durer longtemps. L'autre va le manger. Voilà encore un nid. Mais cette fois-ci, c'est l'homme qui le fait. Alors, c'est assez étonnant, cette chose. Ça vient de la Drôme, hein, de par ici. Si vous le regardez bien, vous le regardez comme dans un miroir. Vous regardez quelque chose qui vous regarde. C'est un œil. Vous avez la pupille, les faisceaux, comme dans votre iris. Et tout ça, c'est fait avec une plante tout à fait remarquable qui pousse par ici. C'est la viorne lantane ou la viorne flexible. C'est la meilleure plante qu'on puisse imaginer pour la vannerie. Et donc, il est très savant, le monsieur qui fait ça. Il est illettré, mais très savant. Donc, il coupe la viorne pour qu'elle fasse des tiges. Et quand ces tiges poussent non ramifiées, il les coupe et il a de cette longueur. Et donc, il se fait un nid, comme la pie, un nid de vannerie. Et il se ménage des trous. Voilà, c'est le même, debout. Alors là, on commence à comprendre ce que c'est. C'est que le monsieur, il passe par la tête, il passe par le trou, il passe la tête par le trou, et il peut se promener avec, comme un escargot, avec sa coquille. Mais c'est donc ça, c'est à la fois sa robe, c'est à la fois son donjon, son château. Et en plus, comme dans les châteaux, il y a des meurtrières. Et là, il peut passer le fusil. Et avec ça, il chasse. C'est un affût mobile. C'est génial, non? Alors, c'est tout à la fois. C'est un œil, c'est fait pour voir, c'est son nid, c'est sa robe, c'est sa carapace. C'est tout ça à la fois. Et donc, c'est assez génial. C'est un monsieur qui connaît les plantes et tout ça, mais qui n'est pas beaucoup allé à l'école. Voilà. Alors, mon sujet, c'est la greffe. Bon, on n'y est pas encore, hein. Et je vous montre toutes sortes de manières d'appréhender la création. Alors là, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'est que quand je suis arrivé en Ardèche, bon, le premier jour, je suis allé à la mairie pour parler avec le maire, pour me présenter, etc. Et il y avait une dame qui se plaignait, qui était nouvelle débarquée sûrement dans le pays, qui disait, dans ce pays, il ne se passe rien, on est là à tricoter devant la télé et on ne voit rien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'animation, etc. Et le pauvre maire, il se sentait fautif, et puis il n'osait pas ouvrir la bouche. Et elle était bavarde. Et moi, j'étais impatient. À un moment, j'ai dit, mais madame, si vous savez tricoter, c'est pas rien. Alors, on m'a regardé, elle m'a dit, pourquoi, vous savez tricoter, vous? J'ai dit, non. Mais si vous savez tricoter, et si vous êtes plusieurs, on pourrait faire un groupe de recherche de tricot. Un groupe de recherche. Je pensais que je tombais du ciel, que j'étais un peu abruti ou... Et puis je suis parti. Bon. Et quelques jours après, je la rencontre dans la rue. Elle m'a dit, vous savez, on est 6 à savoir tricoter. J'ai dit, bon, ben d'accord, si vous voulez, on fait un groupe de recherche. Ah, c'est d'accord. Elles sont venues chez moi avec mottes et travaux sous le bras et sous l'autre bras plein de pelotes de laine de toutes les couleurs. Je dis, mais ça tient pas au soleil, ces couleurs, c'est rien du tout. Puis mottes et travaux, n'importe qui peut le faire, donc c'est pas de la recherche. Alors elles étaient un peu surprises, évidemment. Je dis, voilà, moi j'ai des moutons noirs et des moutons blancs. J'ai fait filer la laine, j'ai que du noir et du blanc. Alors si vous voulez, on va travailler avec du noir et du blanc. Alors elles étaient un peu... Elle se dit, où on est tombé. Alors, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait avec du noir et du blanc? Je dis, ben, vous pouvez au moins faire des rayures. Ah oui. Et alors, je leur dis, comme je sentais qu'elles étaient de plus en plus dépitées, je leur dis, mais en faisant des rayures, essayez de ne pas vous ennuyer. Alors, on me dit, ah oui, et comment on ne s'ennuie pas en faisant des rayures? J'ai dit, ben, vous variez les intervalles. Ah, vous n'avez pas pensé à ça. Voilà. Donc une a fait ça et l'autre a fait ça. C'est incroyable, c'était le même sujet. Du noir, du blanc, des rayures. Il y a même des petits moments de bravoure pour montrer qu'elle savait faire autre chose. Que... Et au bout de quelques temps, parce que ça y allait, ça papotait, puis ça avançait. Un beau jour, je rassemble tout ce qu'elles avaient fait et pour voir comment elles allaient réagir. Alors quand elles arrivent, chacune tire son truc. Et je lui dis, comment vous faites? Vous n'avez pas signé votre travail. Comment vous le reconnaissez? Je lui dis, ben on le reconnaît. Je lui dis, oui, mais à quoi? Alors là, tout d'un coup, elles se sont dit, mais au fait, oui, à quoi? À quoi on reconnaît? Donc, elles ne savaient pas. Et je lui dis, mais moi, je vais vous dire. Vous avez créé un rythme. Et ce rythme, il vous caractérise totalement. Il a une relation avec la manière dont vous marchez, avec la manière dont vous parlez. On a tous un débit particulier. On n'a pas le même débit. Et... Le rythme, il vous caractérise. Avant toute création, il y a le rythme. Je dirais même avant la naissance, ou dès la naissance, il y a un rythme. Même le fœtus a un rythme. Et nous sommes réglés par un rythme qui détermine notre forme, finalement. Alors, oui, tout d'un coup, elles se sont senties beaucoup plus savantes qu'avant. Voilà, alors il y en a une qui a dit oui, mais toujours des rayures. Bon, alors elle a fait autre chose. Parce que je leur ai dit, comme elles étaient très savantes à faire des rayures, à un moment, je leur ai dit, mais... Essayez de faire une forme en épi, comme un épi d'orge, un épi comme la fougère, comme... pas seulement des rayures, c'est un peu plus compliqué. Alors il y en a une qui a fait ça, mais au crochet, et une autre qui a dit, ah oui, mais c'est intéressant, ne plus faire toujours des rayures. Donc elle a repris ça aux aiguilles, et ça a donné ça. Complètement différent, le fait de faire cette forme en épi, mais aux aiguilles. Alors finalement, l'envers était presque aussi beau que l'endroit. Et puis, elle n'en voyait pas le bout, ça a fait un châle grand comme ça. Et c'était somptueux, ce châle noir et blanc, à tel point que le Centre Pompidou a photographié ça, dans Culture au quotidien, pour montrer une recherche artisanale rurale. Voilà, on peut passer. Voilà, alors de temps en temps, pour les bousculer un peu, parce que moi, je n'ai jamais dessiné devant elle un motif. Il fallait qu'elle l'invente. Mais j'amenais la nature. Et la culture, c'était le tricot. C'est une technique, c'est une technoculture. Donc voilà comment j'amenais la nature. Quelquefois, j'amenais une aile de papillon, je leur dis, vous voyez, là aussi, il y a un rythme, il y a un ordre, il y a des tas de choses, puisque ce papillon, ce n'est pas un autre. Celui-là, il a un nom, il se multiplie, il est comme ça. C'est son caractère. Alors essayez de trouver un caractère qui vous corresponde, quand vous n'avez que du noir et du blanc. Alors, bon, ça a donné des tas de choses. Voilà. Donc, en imitant un certain papillon, qu'on appelle le satyre d'ailleurs, ça a transposé, ça a donné ça, une espèce de masque avec le noir et le blanc. Voilà, alors, je compliquais un peu les choses. Alors, voilà le genre de modèle que j'amenais. Donc, comme moi, je ne dessine jamais devant les stagiaires, jamais de la nature, vierge. Un beau jour, j'ai amené ça. Je dis, regardez ça, c'est incroyable, cette organisation presque géométrique, ce triangle à peu près équilatéral, ces taches, etc. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose de ça? Oh, alors oui, bien sûr, ils ont sauté dessus. Voilà, aux aiguilles, cet insecte, cette espèce de punaise, qui a donné ça. Mais là, je regarde et voir cette image, elle est à l'envers. Imaginez-la de l'autre côté, et on voit comme une espèce de mouflon avec de très grosses cornes, les yeux, un chanfrein et une barbe. Mais celui-là, il n'était pas prévu, il n'était pas au programme. Le programme, c'était ça. Mais tout d'un coup, l'intervalle prend une signification.
Alors ça, c'est la découverte de ce qu'on appelle la décoration. C'est-à-dire qu'on crée un signe, mais les intersignes, tout d'un coup, deviennent aussi intéressants que le signe lui-même. Donc c'est une ouverture sur l'inconscient, sur le hasard, etc. Alors, j'avais la belle-mère et la belle-fille. Et donc, il y en a une, ça c'est la grand-mère, la plus âgée, qui avait, je sais pas, 85 ans, pardon. Elle a fait ça, toujours avec le même insecte, hein, mais elle ne l'a pas présenté de la même façon. Elle l'a opposé, ce qui a créé un motif différent avec les intervalles comptent. Et moi, j'ai trouvé ça somptueux, très, très libre, très moderne. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas une veste comme ça? Alors, toutes les provocations étaient bonnes. Donc, la vieille dame a fait une veste. Et un beau jour, elle est venue avec sa veste. Magnifique. Audacieuse, moderne. Et son petit-fils lui a piqué pour la porter et il était aux Beaux-Arts à Paris. Enfin, on peut passer. Ah oui, alors un beau jour, elle m'a dit, oui, c'est bien tout ça, monsieur Chaudière, mais avec vous, c'est toujours noir et blanc. On voit que vous n'aimez pas la couleur. J'ai dit, oh, vous vous trompez, moi, j'adore la couleur. Mais pas la couleur que vous amenez, vous, dans vos pelotes. On va faire la couleur. On va faire la couleur. Et avec quoi? Voilà. 200 mètres autour de la maison, on va faire la couleur. Voilà tout ce qu'on a fait à 200 mètres autour de la maison. Alors, il y avait de la garance dans les vignes, ça a donné des rouges. Avec le jaune escorpion, ça a donné des jaunes. Voilà le rouge, le jaune. Avec des lichens, avec plein de trucs. Et vous voyez, tout ça est accroché sur un vieux mûrier qui est mort. Mais il y avait encore des lichens sur ce mûrier qui ont donné une couleur de soie, justement. Enfin, bref, plein de choses. Il y a eu du sureau, il y a eu plein de trucs. Donc, voilà, on n'était pas limité en couleur. Donc, voilà le même châle que vous avez vu en noir et blanc, tout d'un coup, fait avec de la garance et probablement des lichens, je ne sais plus. Voilà. Voilà, on va arriver à la greffe. Alors, voilà, à peu près, c'est pas tout à fait l'églantine, mais c'est très voisin. C'est une rose, disons, très peu améliorée à partir de la rose sauvage. Donc, elle a 5 pétales, elle a beaucoup d'étamines. Seulement, les hommes sont observateurs et curieux et ils se sont rendus compte, quelquefois, il y avait des étamines qui étaient un peu transformées comme une sorte d'embryon de pétale. Elles étaient un peu plates. Et donc, ils ont cultivé ce caractère. Et finalement, ils ont transformé les étamines en pétales. Voilà. Donc là, déjà, on est assez loin de l'églantine. Et il y a encore des étamines. Mais vous voyez, il y a beaucoup plus de pétales et c'est déjà une rose. Et alors, évidemment, on a trouvé, même en Ardèche, dans les montagnes, on voit déjà des rosiers sauvages qui ne sont pas trop grimpants. Il y a toutes sortes de rosiers sauvages. Et il y en a un qui est un peu teinté de rose. Donc, en cultivant le caractère rose, on est arrivé à faire des roses rouges. Même l'ambition maintenant, c'est de faire des roses noires. Et voilà, ça c'est la rose de Provins, qui serait venue du Liban, des trucs comme ça, et qui passe pour être médicinale. On soignait la tuberculose avec cette rose, la rose de Provins. Et figurez-vous que de nos jours, on peut acheter encore des bourgeons de rose de Provins. Voilà, la rose de Provins, qui a eu une célébrité. Voilà, alors quand on transforme les étamines en pétales, et qu'on a tout transformé, il ne reste plus d'étamines. Et donc, on a perturbé l'ordre génésique de reproduction. Comment on fait pour faire des graines avec une rose qui n'a plus d'étamine? Étamine, c'est le support du pollen, de l'anthère et du pollen, c'est-à-dire l'aspect mâle de la fleur. Et donc, elle ne tient plus l'aspect mâle. Comment la féconder? Elle ne peut plus le faire de graines. Alors, comment on fait? Et cette rose-là, elle est magnifique. Voilà, elle est somptueuse, elle est magnifique, elle est royale, mais on ne sait pas comment la reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on greffe. C'est-à-dire, sur la plante qu'on a améliorée, on va prélever un œil, ou un petit rameau, qu'on va greffer éventuellement sur le rosier sauvage, pour multiplier celle-là, parce qu'on ne peut plus la multiplier par semis. D'où l'intérêt de la greffe. Alors voilà, pour obtenir cette belle rose, on va greffer le bourgeon, c'est elle sur un églantier, sur un rosier sauvage. Et là, l'intérêt, c'est de prendre la rose la moins sophistiquée qu'on trouve, c'est-à-dire la rose vraiment sauvage, parce qu'elle, depuis des siècles, elle s'est adaptée, elle n'a pas de parasites, elle s'est résistée à la sécheresse, on n'a jamais touché à ses racines. Donc, si on a des rosiers sauvages, l'intérêt, c'est de ne pas toucher aux racines. On ne touche pas aux racines, on greffe juste au-dessus. Et à partir de là, ça va être la belle rose. Voilà, d'où l'intérêt de la greffe. C'est de s'appuyer sur la nature sauvage, tout en lui imposant la nature cultivée. Voilà. Alors, vous allez dire, bon, que je tire la couverture à moi-même, puisque j'aime greffer, mais en vérité, je n'ai pas inventé la greffe. Cette greffe-là, je vous donnerai en mille qui l'a faite, c'est pas moi. Hein, c'est soudé, là. Hein. C'est mon chat. Parce que les chats, ils aiment se faire les griffes à une certaine hauteur. Et là, c'était juste la bonne hauteur. Il a griffé les deux, on voit encore les traces, là. Et ça s'est soudé. Parce qu'il a fait une blessure, il a blessé l'écorce. Et les branches se sont frottées, elles se sont soudées. Et actuellement, maintenant, on ne voit même plus le vide. C'est devenu un seul tronc. C'est un arbousier. Alors voilà, mais la greffe, c'est une technique, ben c'est celle que je vais essayer de vous enseigner, très, très, très variable, très variée. Là, par exemple, il y a une greffe. Alors, c'est la technique la plus, comment dire, la plus élégante de toutes les greffes, je crois. C'est ce qu'on appelle la greffe en sifflet herbacé. C'est-à-dire qu'on greffe une tige en pleine croissance, qui a beaucoup de sève, qui a un bourgeon terminal en train de pousser, et on prend un greffon dans le même état de végétation, on découpe, on fait une incision au-dessus d'un œil et au-dessous, et on le fait tourner sur lui-même, si on y arrive. Alors, il y a des arbres où on ne peut faire ça que pendant une semaine ou deux, pas plus, parce qu'après, ça ne se décolle plus. Bon, en tout cas, quand la plante est en train de pousser, mais pas trop jeune, parce que si elle est trop jeune, les tissus ne sont pas spécifiés. On ne peut pas décoller l'écorce de la partie qui est trop tendre, mais il y a un moment où l'aubier s'est formé et où on peut faire tourner l'écorce autour de l'aubier. Si on arrive à faire ça, on est à peu près sûr d'avoir réussi la greffe. Après, il faut trouver sur le porte-greffe un truc de même diamètre. Alors, on lui coupe la tête, on l'épluche comme une banane, on fait des lanières, et on enfile le tube d'écorce avec un œil. Et il faut que ce tube d'écorce touche, éloigne lui-même les autres. Il ne faut pas qu'il y ait un vide. Il faut que ce soit lui qui écarte l'écorce. Et quand on y arrive, eh ben voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. On n'a pas à attacher, il n'y a pas de mastic, il n'y a rien du tout. Et la sève passe et les lanières se dessèchent, elles vont tomber. On peut aussi les attacher au-dessus de la greffe. Et ça pousse. Et quand ça pousse, eh ben voilà, c'est tellement ajusté au propos du greffeur qu'il n'y a plus de traces. Les deux sont greffés. Là, on voit, regardez, ici, on voit une différence de couleur, à peu près. Là, voilà. Bon, évidemment, c'est des années après la greffe. Hein. Quand je l'ai greffé, c'était plus mince que mon doigt. Voilà, donc ça, c'est la greffe en sifflet herbacé. Alors voilà, quelque chose d'assez surprenant. Vous connaissez tous, vous avez tous vu le prunelier. Alors, le prunelier, il pousse, il fait beaucoup de rejets, il fait des épines, il fait des fruits minuscules. Et il s'étale, des fois on voit une grosse touffe, et c'est un seul arbre qui s'est multiplié. Mais il ne fait jamais un tronc très gros, parce qu'il se répand en rejet. Et j'ai greffé un prunier sur le prunelier. Et il y a une telle affinité, parce que les deux sont des pruniers, que le prunier, c'est des reines Claude, a imposé son mode de croissance au prunelier. Tant et si bien que le prunelier, il n'a plus le courage de faire des rejets, alors qu'il fait toujours des rejets. Mais une fois greffé, pour alimenter son vampire, si vous voulez, qui lui tire l'énergie, il a fait ça. Et regardez le tronc que ça a fait, alors qu'un prunelier, il ne fait jamais un tronc comme ça. Et puis ça a fait plusieurs mètres de haut, et il a fait des prunes extraordinaires. Alors l'intérêt de ce genre de choses, c'est que le prunelier, il n'a aucun parasite, pratiquement. Eh bien, il va donner une sorte de santé si on n'a jamais touché aux racines, si on ne l'a pas arraché, si on a greffé en place, ce qu'on va essayer de faire demain. Donc l'intérêt, c'est de greffer l'écotype dans son écosystème. Et la greffe, c'est une altération des deux. Mais si on s'appuie sur ce rapport de nature, c'est-à-dire une plante qui est là peut-être des siècles, adaptée, et elle a résisté à tout, donc elle est résistante, et là-dessus, on va greffer la culture, qui, elle, n'est pas aussi résistante. Mais si on a des racines résistantes auxquelles on n'a jamais touché, alors on a un arbre intéressant. Voilà la preuve. Voilà, alors ce que je vous disais, voilà la prunelle jusque-là. Et là, j'ai greffé les pêches. Je ne sais plus si c'est des pêches ou des abricots. C'est des pêches, je crois. Donc on voit un bourrelet cicatriciel un peu gros, ce qui prouve que la plante n'est pas tellement d'accord. Il y a une réaction. Alors tout à l'heure, je vous ai montré l'absence du bourrelet, parce qu'il y avait beaucoup d'affinités entre les deux.
Là, il n'y a pas une affinité extraordinaire. Donc, le bois du... Je regarde, c'est un abricotier, ce n'est pas un pêché. On va faire ça, d'ailleurs. J'ai ramené des greffons d'abricots. Et on pourra greffer les prunelles. Voilà. Donc, on peut avoir des abricots sur un prunelier. Lui n'a pas d'épines, l'autre est plein d'épines. On voit d'ailleurs hein, les dards. Et il apporte une certaine résistance et une adaptation au sec en particulier. Parce que l'endroit où pousse cette plante sauvage, elle a résisté à toutes les sécheresses. Actuellement, chez moi, j'ai quelques arbres avec des fruits. Il y en a qui ont souffert de la sécheresse, de la canicule cette année. Mais ceux qui ont été greffés sur sauvage, non. J'ai pas eu à les arroser, j'ai pas eu... Ils sont adaptés. Voilà, alors ça, c'était quelque chose de beaucoup plus rare. C'est un pistachier. Un pistachier vrai qui fait des belles pistaches, celles que vous achetez. Mais il est greffé sur l'arbre sauvage, le térébinthe, voilà. Donc, il y a beaucoup de térébinthes en Ardèche. Sur la route des vents, on pourrait avoir un verger sur plusieurs kilomètres. Il y a plein de térébinthes. Ils font des petits fruits immangeables. Et là-dessus, si vous savez greffer et que vous réussissez la greffe, qui n'est pas trop facile, tout d'un coup, vous avez des pistaches. Alors, j'ai fait ça au Maroc, un endroit où il y avait quelque chose de mieux que le térébinthe, c'est le pistachier atlantique. C'est-à-dire qu'il devient très grand. C'est l'arbre, c'est pas qu'il y a l'océan Atlantique qui est là, c'est l'arbre des Atlantes. C'est un mythe. Mais c'est un arbre qui devient très grand et qui fait des fruits pratiquement immangeables. Mais c'est le plus beau porte-greffe du pistachier. Et donc maintenant, dans la région de Meknès, je greffe l'Atlantique en pistachier vrai. Et il y a des pistaches. Ça veut dire que tout d'un coup, on a une plus-value extraordinaire du milieu, de l'environnement, un endroit où il n'y a rien de productif. Tout d'un coup, on a des pistaches superbe sur un porte-greffe local. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une production inespérée sur un lieu. Voilà. Donc la greffe, c'est l'occasion d'une valorisation extrême du milieu. Voilà le résultat. Hein. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Voilà les fruits. Donc voilà les pistaches. Alors il y a une région en France où j'ai fait ça aussi. C'est à La Ciotat. Donc on a un petit film. Si vous avez la patience de le voir, on le passera. Voilà, alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il y a un pistachier, nous, on est au bord de mer. On n'a pas de térébinthe, mais on a le lentisque. » Alors là, c'est ingreffable. Même dans des centres importants en Espagne, ils m'ont dit « C'est peut-être possible, mais on ne le connaît pas. » Bon, et moi, comme je suis un peu vindicatif, ben, j'ai greffé sur le lentisque. Alors, on voit bien la feuille du lentisque et le pistachier au-dessus. Et donc, tout ce genre de choses, ils ont été exposés à Paris, à la Cité des Sciences, parce qu'ils voulaient... que des coups tordus, des greffes insolites. Alors je leur en ai fait pour leur argent, puisqu'ils proposaient de me payer pour ça. Et donc je leur ai fait que des choses invraisemblables. Par exemple, l'olivier sur le frêne. Bon, ouais, le frêne, ça ne fait pas des olives. Hein. Mais ce sont deux oléacées. Et donc que des choses comme ça. Le châtaignier sur le chêne vert. Chêne vert qui fait des petites feuilles pointues, épineuses, qui fait des glands pas très gros, et là-dessus, des châtaignes. Voilà, je leur ai fait que des coups comme ça, il y en avait pas mal, hein, et ça a duré 6 mois, là-bas. Voilà, par exemple, voilà ce que je viens de vous raconter. Regardez ces feuilles, le départ de la greffe, des feuilles superbes, en garrigue sèche, où il n'y avait que des chênes verts. Alors, le chêne vert, il pousse en milieu calcaire, surtout, le châtaignier en milieu acide, donc il ne risquait pas d'avoir de châtaignier dans cette garrigue. Mais en plus, le châtaignier, il a des maladies dans son milieu que le chêne vert n'a pas. Donc le support est très sain, très vigoureux, très adapté. C'est un écotype, justement. Je ne vais pas toucher à ses racines et tout d'un coup, je vais avoir des châtaignes. Et regardez, je viens de faire la greffe, elle débourre et elle fait des chatons. Donc si ça se trouve, elle aurait pu faire des châtaignes dans l'année même de la greffe. Parce que j'ai oublié de vous dire une chose importante. Quand vous greffez, vous transmettez la variété, l'espèce, et l'âge. C'est-à-dire que si vous plantez un pépin de citron, par exemple, il va pousser, il va faire un arbre plus ou moins épineux, peut-être qu'il mettra 20 ans avant de faire un citron. Mais si je le greffe avec un rameau programmé pour fleurir, et surtout si c'est une greffe par approche, il peut avoir carrément des bourgeons floraux, même une fleur. Et ça prend, quand vous coupez, dans l'année de la greffe, ou dans les mois qui suivent, vous avez le fruit. Pas 20 ans après. Donc on voit l'importance de la greffe. Voilà, alors là c'était sur chêne vert, là c'est sur chêne pubescent, mais c'est encore un châtaignier. Voilà, alors ça c'est encore un drôle de truc. J'ai
qui pousse au bord du chemin chez moi. Vous voyez ces petites feuilles pointues. C'est un poirier épineux qui fait des fruits immangeables, qui sont durs, qui sont âpres. On l'appelle le poirier à feuilles d'amandier, je crois, ou un truc comme ça. Et je l'ai greffé en poirier, alors il supporte bien la poire. Mais un beau jour, j'ai greffé un rejet, et tout le monde dit on ne greffe jamais le pommier sur le poirier. Mais comme je suis vindicatif, moi, j'ai greffé le pommier sur le poirier. Et ça m'a fait... J'ai compris pourquoi on dit qu'il ne faut pas le faire. Ça m'a fait un truc comme ça. Ça m'a fait un bonsaï qui ne veut pas pousser, mais qui fait des fleurs. Et il m'a fait des fruits. Et là, la surprise, c'est que les fruits sont aussi gros que sur l'arbre qui m'a donné le greffon. Mais l'autre avantage incroyable, c'est que ce fruit n'est jamais parasité. Alors que les mêmes pommes, sur l'arbre originel, ils sont parasités. Ça veut dire que le porte-greffe a une influence sur la résistance du fruit aux parasites. C'est pas rien, hein, parce qu'il n'y a pas de traitement chimique, là. Mais par contre, il n'a jamais grandi plus que ça. Donc, alors, c'est bien pour faire des arbres de balcon, si vous voulez. Voilà. Donc, pommier sur poirier. Voilà, alors, puisque là, bon, on verra tout à l'heure toutes sortes de types de greffes. Là, c'est une greffe en couronne de l'olivier sur un autre olivier, sous écorce. Donc, on coupe. C'est très sauvage, très brutal. À une saison toutefois où l'écorce se soulève, et donc on introduit un greffon sous l'écorce, et voilà ce que ça donne, elle est très vigoureuse. Hein. Voilà un autre type de greffe sur l'olivier, alors c'est la greffe en fenêtre, vous voyez la fenêtre, une incision là-haut, une autre là, une autre comme ça, et on ouvre les volets. Et on a prélevé le greffon, l'œil, sur une tige, en faisant une incision circulaire au-dessus de l'œil, en dessous de l'œil, derrière un trait vertical, et on ouvre, et on a un rectangle en général avec deux, parce que l'olivier a des feuilles opposées, donc on a deux départs. Et puis on va le placer sous les volets de cette fenêtre, et rabattre les volets dessus, attaché, tout fermé, et au bout de 21 jours en général, enfin 3 semaines, on enlève la ligature. Ah oui, et on fait au-dessus, je ne sais pas si on le voit là-dessus, peut-être, moi je vois bien clair, on enlève un très petit liseré d'écorce, quand on fait la greffe, hein, au-dessus, mettons à 2 ou 3 cm au-dessus de la greffe. Et puis, au bout d'un certain temps, le fait d'avoir fait cette incision favorise un rejet, un afflux de la greffe, de la sève, qui va gonfler les bourgeons vont soulever les volets de la fenêtre, et voilà le résultat. Et à ce moment-là, on coupe au-dessus. À l'endroit où on avait fait le liseré d'écorce, on coupe. Et voilà, on a en général 2 pouces qui correspondent aux 2 bourgeons. Voilà. Alors, comme j'ai un goût bizarre, enfin, peut-être extravagant, un jour j'ai greffé l'olivier sur un frêne. Vous voyez bien que ce n'est pas des feuilles d'olivier, là. Voilà. Alors ça fait partie des extravagances de la greffe. Ah, voilà encore un autre truc, parce qu'on ne greffe pas que les arbres, on greffe des plantes aussi. Donc j'ai eu un jour une plante dont on disait merveille, qu'on appelait le melon poire, qui a la forme d'une poire, et qui aurait vaguement le goût du melon, encore que c'est une solanacée, comme la tomate. Alors j'avais ça en pot, il faisait des fleurs, et il ne faisait aucun fruit. Alors un jour, de guerre lasse, je l'ai greffé sur pomme de terre, en pleine terre. Et là, il a refroidi. Et en grattant, malheureusement, je n'ai pas la diapo, là, mais j'ai une autre diapo. En grattant, on voit les pommes de terre en dessous. Et donc, j'ai les pommes de terre et le Solanum muricatum, qui est sucré. Alors, voilà encore un exemple extravagant. C'est que ça, c'est un estragon, comme vous voyez. Et sur un champ d'armoise, chez moi, l'armoise envahit tout. Donc, sur l'armoise, on ne greffe pas sur la tige, évidemment, mais l'armoise fait des tiges qui meurt chaque année, mais la partie vivante est souterraine. Il y a un rhizome qui se développe. Alors, il faut prendre la tête du rhizome, et on greffe l'estragon, et on peut avoir un champ d'estragon très vigoureux. Ah, voilà une greffe très facile. C'est la tomate sur... Je vous le donne en mille. Sur quoi ?
Aubergine.
Hein ?
Aubergine ?
Non. C'est un tabac. C'est un tabac arborescent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des aubergines ou des tomates à 3 mètres de haut. Ils poussent. C'est un tabac du Pérou, on appelle le tabac glauque, et qui a colonisé la Méditerranée. Il n'a pas peur du sel,
Il craint un peu le froid, mais il supporte quand même le gel. Mais il peut faire 3 mètres. Et donc, on peut ramasser des aubergines à 1 mètre ou 2 mètres du sol. Et comme il fait plusieurs tiges, eh bien, on peut avoir d'un côté tomates, d'un côté les aubergines, etc. Un beau jour, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un arbre à ratatouille. Et pas possible, parce qu'il ne veut pas le poivron. C'est pourtant une solanacée. Alors, pas d'affinité. J'ai essayé toutes sortes de techniques de greffe, il n'en veut pas. Donc, j'ai dû greffer le poivron sur autre chose. Mais en tout cas, il peut faire des aubergines, des tomates, le solanum de Quito, qui est sucré. Et chaque fois que j'essaie quelque chose de nouveau dans la même famille, en général, il accepte. C'est-à-dire que ce tabac, c'est une mère porteuse. Et donc, quelque temps, j'ai essayé le fameux goji. Tout le monde parle du goji, qui fait des toutes petites feuilles, des petits fruits. Et ça a marché très fort. Donc, on peut avoir le goji à cette hauteur-là, si vous voulez, et qui devient très puissant, évidemment. Voilà, donc c'est étonnant, cette plante-là. Et donc, au Maroc, ils en ont plein au bord des routes, à Casablanca et ailleurs. Quand je leur ai dit que là, on pouvait avoir des tomates sans les arroser, alors, oui, tout le monde essaye. Ah oui, ça, c'est pas une greffe. Alors ça, un jour, dans mon village, à Berrias, j'allais chercher du pain à la boulangerie, puis j'ai vu ça. La boulangère, tout d'un coup, avait sorti un petit panneau où elle avait collé de la pâte à pain qu'elle a façonnée. Et elle a fait une espèce de... Moi, je dis qu'elle a fait une infante. Pour moi, il y a le même processus chez cette boulangère qui ne se prend pas du tout pour une artiste, et pour Velázquez, qui fait, pour la gloire des rois, une infante. C'est le même moteur. C'est figurer l'humain dans ses atours, parce que l'autre, vous avez vu, elle avait des boutons, elle avait une belle robe aussi, en pâte à pain. Et là, on voit aussi tous les atours, et très obsessionnel, parce que Velázquez, tout en faisant cette femme, il a fait un masque avec la robe, terriblement, beaucoup plus regardant que le visage, beaucoup plus prégnant. Ça, c'est le mystère un peu baroque de Velázquez. Alors voilà encore du baroque, si vous voulez. Ça, c'est Léonard de Vinci qui fait un ange. Mais lui, il ne peut pas se passer de faire des ailes. Il fait toujours des ailes. Et tellement bien qu'un jour, il essaie de faire des ailes pour voler, comme Dédale. C'est un Dédale. Mais ce qui caractérise son œuvre, c'est toujours le tourment qui est psychologique, mais qui est graphique et qui est plastique. C'est là, tout ce mouvement, une espèce de tempête dans les voiles, et qu'on va retrouver un peu dans toutes ses créations, chez Léonard de Vinci. Voilà, si vous voulez, cette espèce de tempête organique dans le style. Regardez ces circonvolutions et ces enroulements en spirale. Bon, c'est un projet de fontaine. On voit Neptune avec des chevaux. Et ça, c'est lui-même. Mais on retrouve les symptômes. La spirale, qui s'enroule, les ailes. Donc, on retrouve les obsessions inconscientes, évidemment. Et lui, là, c'est le moment où on vient de découvrir l'Amérique. Alors, il se déguise en conquistador. C'est un autoportrait de profil, dans la fleur de l'âge, assez austère, hein, grave, avec un lion, les images de la puissance, et tous les enroulements, enfin bref. C'est Léonard de Vinci. Et voilà le même, Léonard de Vinci, mais c'est juste avant sa mort. Au moment où il a quitté l'Italie pour vivre auprès de François Ier. Et à la fin de toutes ses œuvres, il se donne dans son état de dénuement le plus total. La précédente image, il y a tous les ornements de la gloire, tous les artifices. Et à la fin de sa vie, il se dépouille de tout. Il vous donne quelque chose d'une modernité extraordinaire. Ça pourrait être un vieillard de nos jours, quoi. On n'a pas tout le bagage culturel de tous ces ornements, etc. Donc c'est une des vertus de l'art extraordinaire que d'abolir le temps, si vous voulez. Voilà, à la même époque, pour bien vous donner l'actualité de cette image de Léonard de Vinci à la fin de sa vie, voilà, à la même époque, François Ier, un peu déguisé, si vous voulez, par le cartonnier qui a fait cette tapisserie, qui part à la chasse, mais pas n'importe quelle chasse. Il va à la chasse à la licorne. Alors la licorne, c'est le mythe ou l'animal qui incarne tout ce dont je vous parle depuis le début. C'est-à-dire la nature vierge. Alors on part à la chasse à la licorne et regardez là-bas. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, par ici !» Et alors, ils vont se précipiter pour aller voir. Et voilà. Alors dans le mythe de la licorne, on dit que pour arriver à faire sortir la licorne des bois, qui est un animal unique au monde, hein, mais qu'il y en a une, mais il y a quelque chose d'irrésistible pour la licorne, c'est qu'il y a une femme vierge et qui aurait du lait, premier miracle. Si cette femme qui a du lait en trouve son corsage, qu'elle sort son sein, alors elle va susciter la présence de la licorne, qui va venir téter du lait de cette vierge. Et si elle tète du lait de cette vierge, on peut l'approcher. En dehors de quoi, on ne peut jamais l'approcher. Alors, vous voyez un peu le côté alambiqué de ce mythe. Et voilà, et regardez ce qui se passe. C'est très, très intéressant. C'est que la dame, j'allais dire la traîtresse, qui a charmé la licorne, qui est pâmée, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde du côté des chasseurs. Elle dit, j'ai réussi à capter la licorne, vous pouvez venir. Ça, c'est la sauvagerie de notre espèce, la vôtre et la mienne, par rapport à la nature. La nature, c'est ça, et on va tout faire comme on ne peut pas. Elle est inexpugnable, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas la domestiquer. La nature, on ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est la tuer. Et avant de la tuer, mais on se rend compte que cette licorne, cette nature vierge, magnifique, quand elle trempe son corps dans l'eau d'une fontaine, c'est l'euphorie générale pour tout le monde. Les chasseurs s'accordent avec leur proie, les cerfs viennent au milieu des chiens boire et tout le monde se congratule et se félicite. Que c'est beau la nature. C'est tellement beau qu'on veut la manger. C'est tellement beau que... Ah oui, mais comment s'approprier la nature? Eh bien, on la tue. Regardez le mauvais coup qu'elle va prendre là. Et alors, il y a déjà des chiens éventrés. Elle se défend terriblement. Elle est très puissante, la licorne. Mais pour venir à bout de l'homme, c'est autre chose. De ce temps-là, les grands maîtres tapissiers, ils faisaient comme des bandes dessinées. On montrait une étape, puis une étape, puis une étape. Ces tapisseries étaient la propriété de la Rochefoucauld et ils les ont vendues au musée des cloîtres de New York. Alors là, on voit, c'est toujours la même licorne, mais on la voit dans... Là, on est en train de la tuer. Et là, elle est déjà morte. Elle est sur le dos d'un cheval. Et on va la ramener au château, et tout le monde se congratule, s'émerveille de la prouesse d'avoir tué la licorne. Et regardez là ce qui se passe, là c'est assez symbolique. Celui-là, il prend son corps pour boire le sang de la licorne, pour s'approprier sa puissance, parce que le mythe il est là, c'est s'approprier la puissance de la nature. Voilà encore un détail du massacre de la licorne, on peut passer. Ça ressemble beaucoup à la corrida, hein, je vous fais remarquer, avec tous les picadors et tout ça. Ben, si vous voulez, le taureau du picador, du matamor, c'est un peu la licorne de cette période. Voilà, le résultat, c'est qu'une fois qu'on a tué la nature, oh, alors le deuil, vous imaginez un peu ce qui nous arrive. Et pourtant, nous sommes dans ce processus. Hein. Il suffit de voir un champ... centaines d'hectares d'une seule espèce, aucune herbe sauvage et désherbant et tout et tout. Mais le productivisme, c'est la barbarie. Et donc, une fois qu'on a tué la licorne, on se trouve cocu. Et donc, on la ressuscite, dans cette tapisserie en tout cas. Donc, on la ressuscite, mais comment? Avec un collier et un parc. Et nous en sommes là, nous faisons des parcs naturels, non? C'est ça, ça c'est le parc naturel. Voilà, et pendant ce temps-là, le mythe de la licorne était tellement prégnant, tellement puissant... qu'en France, il y a eu d'autres cartonniers qui ont fait des tapisseries sur le même thème. Donc ça, c'est les tapisseries qui sont actuellement en France au musée de Cluny. Il y a 5 tapisseries de la Dame à la licorne. On dit que c'est les tapisseries des 5 sens. Donc là, il y a un des sens qui est manifesté, c'est le regard. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour piéger la licorne, on lui donne un miroir. Et comme elle est unique de son espèce et qu'on lui donne son image... Elle est fascinée. Donc, on va la domestiquer. Vous voyez, elle a les pattes sur les genoux de la belle. Et elle piège l'intérêt de la licorne avec sa propre image. Alors, moi, j'ai l'impression de faire la même chose avec vous. Je vous présente une image pour piéger votre attention. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai essayé. Voilà. On peut arrêter.